comment Jésus exerce son ministère dans la puissance et en même temps combien il est extrêmement impuissant au cœur même de cette puissance, sinon il ne serait tout simplement pas puissant. On va voir comment ce que je vous dis là en résumé, eh bien, c'est vraiment l'intention de Saint Luc dans la construction même de son évangile. Alors pour commencer, je vais vous situer le ministère de Jésus. Je vais le situer sur un schéma qui va se compléter au fur et à mesure. Au moment du baptême de Jésus, c'est là qu'il apparaît. Hein. Il apparaît, je veux dire, aux yeux de tous. Et puis c'est au moment de la croix qu'il disparaît aux yeux de tous. Donc ça, vous le connaissez. Quand on parle de la vie publique de Jésus, c'est entre ces deux bornes que ça se situe. Or, quand nous pensons à Jésus, maintenant, quel que soit l'évangile, nous allons rester à Luc, hein. Quand nous pensons à Jésus, nous pensons à ses miracles, nous pensons à une prédication puissante, nous pensons à toutes ces guérisons qu'il a faites. Et très vite, son ministère public commence par des guérisons, et immédiatement, hein, c'est très impressionnant. Il sort de la synagogue de Nazareth et il guérit un démoniaque, ensuite la belle-mère de Siméon, ensuite des guérisons multiples, des guérisons. Nous sommes dans un ministère de puissant, de quelqu'un qui prêche, c'est-à-dire qui annonce une parole qui fait ce qu'elle dit. Voilà ce par quoi nous sommes habituellement marqués. Et c'est juste. Et c'est juste. Mais d'où lui vient cette puissance, hein? Et qu'est-ce qu'elle a à nous dire, à nous? Jésus soignant, puisque là il guérit des malades, Jésus soignant, quelqu'un même l'a dit hier soir dans la prière, eh bien qu'est-ce qu'il a à dire aux soignants que nous sommes quant à l'usage de la puissance? Alors nous allons nous arrêter spécialement dans cette longue première partie à la triple tentation que vous trouvez en Luc 4, 1 à 13. La triple tentation. Luc chapitre 4, 1 à 13. Alors il faut d'abord regarder un petit peu le contexte. Vous avez d'abord au chapitre 3 de Luc, vous prenez le chapitre 3, vous avez le baptême de Jésus avant la tentation. Chapitre 3, verset 21, vous avez « Il advint, une fois que tout le peuple eut été baptisé, au moment où Jésus, baptisé lui aussi, se trouvait en prière, que le ciel s'ouvrit. Et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix partit du ciel, « Tu es mon Fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. » Premier tableau. C'est un tableau qui va nous conduire à la tentation. Hein, premièrement. Premier tableau, c'est le baptême de Jésus. Le tableau suivant, il suffit de lire dans vos Bibles, c'est la généalogie de Jésus. Alors vous avez peut-être déjà eu la curiosité, c'est autour de Noël qu'on fait ça, de comparer les généalogies. Eh bien, la généalogie de Luc, elle est très intéressante parce qu'elle commence, elle commence par aujourd'hui et elle remonte dans le passé. Alors que celle de Matthieu, ça fait l'inverse. Elle commence par le passé et elle remonte à aujourd'hui. Là, vous avez aujourd'hui, il était, à ce qu'on croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Matat, fils de Lévi, fils de Melki, fils de Jean, vous voyez? Et regardez comment ça finit. Fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. La généalogie de Jésus, c'est, elle commence par Joseph, la situation d'aujourd'hui, elle remonte à fils d'Adam et ensuite dans une grande enjambée, fils de Dieu. Et c'est ensuite qu'on passe au chapitre 4 et nous avons la triple tentation. 4, 1 à 13. Triple tentation. Et le quatrième tableau dont je vais vous parler, c'est la synagogue de Nazareth. C'est à partir du verset 14 du chapitre 4. Ça va? C'est très visuel parce qu'il s'agit d'une structure, d'une construction. À partir du verset 14, vous avez la synagogue de Nazareth. Et puis l'ouverture du ministère de guérison. Alors, un regard rapide. Si vous lisez ces tableaux dans la suite, comme ça, eh bien, il y a quelque chose qui vous frappe. Baptême de Jésus, il y a une parole qui tombe. Il y a une parole qu'on appelle une parole théophanique. Qu'est-ce que c'est théophanique? Théo, Dieu, phanique, qui apparaît. C'est une parole qui manifeste la présence de Dieu. Théophanique. Quand on dit la théophanie, ça veut dire que quelque chose de Dieu apparaît. C'est tout. Hein. Voilà. Eh bien, une parole théophanique qui dit « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré ». Verset 22 du chapitre 3. Tu es mon fils. Ensuite, deuxième tableau, la généalogie de Jésus. Fils d'Adam, fils de Dieu. Et si vous regardez, c'est fils, fils, fils pendant toute la généalogie. Mais ça aboutit à fils d'Adam, fils de Dieu. Et Adam, c'est pas monsieur Adam dans la Bible. Adam, c'est Adam, c'est l'homme. Hein, c'est le terreux, c'est Adam, Adama. C'est l'homme, celui qui est fait de terre, le glaiseux, le terreux.